Je vous invite à poursuivre sur la base des éléments que nous avons commencé à poser dans le partage, avant le partage du pain et du vin. Cette hérésie dont je parlais tout à l'heure, le docétisme, ne pouvait pas concevoir que Jésus-Christ ait eu faim, qu'il ait eu soif. Ce sont toutes des choses que l'Écriture affirme, relate dans l'histoire de Jésus, qu'il ait été fatigué après un long voyage, lui, le Fils de Dieu Tout-Puissant, qu'il ait mal dormi parce qu'il n'avait pas de lit où se reposer, qu'il ait eu mal, qu'il ait souffert, par exemple, sur la croix, qu'il ait pu être malade, ça l'Écriture ne le dit pas, qu'il ait pu être blessé, qu'il ait été bébé, ça l'Écriture nous le dit, et qu'en tant que bébé, il est fait comme tous les bébés, les apprentissages de ses premiers pas, les maladresses, les chutes, fait dans sa couche même, excusez-moi. Et entre autres choses, les théologiens d'Ossète étaient complètement perturbés, allez savoir pourquoi, le fait que Jésus-Christ ait eu un tube digestif, par exemple, avec tout ce que ça implique, je ne fais pas de dessin, ils ne l'admettaient pas. Et donc, il n'admettait pas non plus qu'il ait eu une pleine identité d'homme, telle que l'Écriture nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, qu'il est connu dans son identité sexuelle masculine, par exemple, entre autres choses, et dans d'autres domaines de sa vie, des tentations, et qu'il ait pu vaincre ces tentations. L'Écriture dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Tout ce qui, dans notre nature humaine, corporelle, nous amène à des tensions, à des difficultés de choix, à un conflit dans notre tête entre ce que nous pouvons être amenés à vivre et la notion que nous avons de la sainteté et de la pureté, tout cela, Jésus-Christ l'a connu parfaitement. Et donc, il ne pouvait pas croire cela et développer donc, la théologie que je vous ai décrite, qui n'était en fait qu'une extension d'une autre hérésie connue dans les siècles primitifs de l'Église et qui a fait l'objet de nombreux débats dans les épîtres en particulier, de nombreuses allusions, l'épître de Jean en particulier, où nous sommes appelés à reconnaître Christ en tant qu'incarné humain, c'était le gnosticisme. Le gnosticisme disait que voilà, ce qui importait, c'était la connaissance, l'esprit, tout ce qui était spirituel, que le corps, et ça correspondait à la philosophie ambiante, en particulier dans le milieu grec, que le corps était une réalité méprisable, que seul comptait l'esprit, l'élévation. Et dans le gnosticisme, qui a plusieurs variantes, on en était venu à dire que finalement, pourvu, et cela pénétrait les églises du début du siècle, pourvu que l'on ait une communion avec Dieu, peu importait à ce moment-là ce que le corps accomplissait et faisait, et que le corps pouvait vivre les pires péchés, les pires impuretés, en particulier dans les épîtres, il y a mention d'impuretés sexuelles, pourvu que l'esprit soit en communion avec Dieu et tout allait bien. Bien entendu, ce n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ lui-même, en tant qu'homme, a vécu dans son exemple de vie, dans son enseignement. Et Jésus-Christ a prononcé plusieurs enseignements sur le corps, et à sa suite, les apôtres aussi ont enseigné sur le corps notre relation et cette harmonie que nous avons à avoir entre ce que nous croyons, notre foi, la vie de notre esprit, notre vie spirituelle et la vie de notre corps. Et c'est un tout autre message que l'Écriture indique à ce sujet-là et je vais vous inviter à le développer un tout petit peu. Ce matin, je vais me faire probablement couvrir des portes, susciter des questions. Et nous avons prévu avec les anciens que sur un tel sujet, il serait bon de prolonger par une étude biblique un petit peu approfondie vendredi soir, qui sera annoncé tout à l'heure avec les activités de l'Église, où nous aurons l'occasion de nous poser des questions, d'aller plus loin, d'aller dans des champs très pratiques, voir les implications. Et vous verrez que les implications sont considérables. Si nous élaborons une théologie correcte sur la base de l'écriture, de ce que Dieu a voulu concernant le corps, les implications dans nos vies sont multiples, nombreuses et extrêmement pratiques. Donc nous aborderons cela plus tard. Et excusez-moi si à plusieurs reprises, je ne ferai qu'effleurer certains sujets, les évoquer, on aura l'occasion de les développer un peu plus. Nous avons tous à croître dans la continuité à l'image de Jésus-Christ. C'est l'objectif de notre vie chrétienne, à partir du moment où nous sommes sauvés. Devenir conforme à Jésus-Christ, devenir conforme avec lui, c'est aussi agir, penser cette harmonie que Jésus-Christ a manifestée entre sa relation avec son Père, la volonté de son Père, et ses conduites dans son corps au cours de sa vie terrestre. Dans Romains, au chapitre 12, au verset 1, nous avons ce verset que nous connaissons tous, de l'apôtre Paul. « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Et je donnerai pour titre à cette partie que je veux développer un petit peu, « Le corps, c'est un don reçu que nous sommes appelés à offrir en sacrifice. » Deux parties. Un don reçu. Dans 1 Chronique, au chapitre 29, le verset 14, l'auteur dit qu'on ne peut offrir à Dieu que ce qu'on a soi-même reçu de sa part. Rien ne nous appartient. Qu'avez-vous fait pour aujourd'hui avoir un corps? Vos parents ont fait. Dieu a fait, qui est l'auteur de toute vie. Dieu lui a insufflé la vie à chacun d'entre nous. Et l'Écriture nous montre bien que c'est Dieu le donateur. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 139, l'auteur donne des paroles qui sont tout à fait admirables concernant notre corps. À partir du verset 14 ou du verset 13, c'est toi, en s'adressant à Dieu, c'est un hymne de louange et de reconnaissance à Dieu pour le corps qui est le sien, c'est David qui écrit ici. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Ici, le psalmiste insiste sur une chose. Depuis le début, depuis la première cellule, nous sommes en formation sous le regard de Dieu et sous la conduite de Dieu pour finalement accéder à la naissance et à un corps. Je n'ai pas besoin même d'évoquer les implications que cela peut avoir dans notre éthique de la vie, cette vie qui est un don de Dieu, cette vie que nous avons à respecter, à préserver comme telle. Dieu donne, Dieu reprend, c'est lui qui en est le seul souverain et maître. Si ça vous intéresse, vendredi on pourra aborder quelques-unes de ces questions qui touchent un peu à l'éthique médicale. Mais je voudrais évoquer autre chose. C'est que si notre corps nous est donné comme une créature merveilleuse, une créature si merveilleuse, dans notre temps actuel où on célèbre d'une façon totalement exagérée le culte du corps, on doit se démarquer en tant que chrétien en disant nous n'avons pas un culte à apporter à quelque chose dont nous ne sommes pas responsables mais qui est simplement un don reçu de la part de Dieu. Ce don reçu, nous avons à le recevoir avec reconnaissance. Et il y a là beaucoup à dire et à tirer comme conséquence de l'acceptation de ce que nous sommes. Cette espèce de dilemme avec lequel nous nous battons tous, plus ou moins, dans nos vies. Vous savez que les plus belles vedettes, les plus grands artistes de cinéma, ceux que tout le monde envie, dont on affiche les posters dans les chambres des jeunes filles, etc., sont souvent les plus mal à l'aise avec leur corps, les plus insatisfaites. Parce que la satisfaction de notre corps ne tient pas à ce que nous en pensons, les critères, mais à ce que nous croyons, à savoir que Il nous a été donné par Dieu et nous avons à le recevoir tel qu'il nous l'a donné avec une immense reconnaissance. Ça soulève des questions, bien entendu, sur un chrétien, quel recours peut-il avoir à la chirurgie esthétique, par exemple ? Ces espèces d'abus où les gens passent par 20, 30 interventions successives sans jamais obtenir, bien entendu, la moindre satisfaction. Et quand vous voyez l'avant et l'après, vous vous dites finalement, tu aurais mieux fait de rien faire. Les résultats catastrophiques. Cela pose des questions sur cette espèce de dictature du corps où nous avons besoin de paraître, d'avoir un look, où nous avons besoin de nous engager dans des activités pour façonner notre corps tel que nous le voudrions. Et nous sommes toujours dans la quête de l'impossible. Cela, allons à dire aussi, avec certaines diététiques extrêmes menées par certains à grand prix pour espérer être ce qu'ils ne seront jamais. Cela soulève de multiples questions, vous voyez, dans le domaine très précis. Le refus du vieillissement, les soins anti-âge, etc., etc., etc. Je ne développe pas plus là-dessus, mais il y a un grand équilibre à garder parce que notre corps nous a été donné. Il nous a été donné comme tel. Et Dieu nous invite à trouver notre satisfaction dans ce que nous sommes, non pas dans l'image que le miroir nous renvoie, mais dans ce que nous pensons, dans notre foi, dans notre esprit, de la reconnaissance à rendre à ce Dieu créateur. Il nous a donné un corps dans un but que nous allons voir ensemble ensuite. Il est bon de se rappeler que Jésus-Christ, la beauté de son identité, de sa personnalité, il ne l'a pas trouvée dans son corps. La prophétie d'Ésaïe qui anticipe sur ce que Christ serait dans Ésaïe 53, tous ceux qui sont familiers avec la Bible connaissent ces versets, nous dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'était pas un Superman. C'était son aspect. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'y avait pas plus insignifiant que l'homme Jésus. Et pourtant, c'est celui dont on parle 2000 ans après. De qui parle-t-on encore autant, avec autant de reconnaissance et d'admiration parmi les personnages de son temps ? Aucun. Parce que sa beauté tenait d'abord à sa beauté intérieure. Et David qui écrivait le psaume 139, que nous avons lu tout à l'heure, parlant d'une créature si merveilleuse que Dieu avait fait de lui, et on savait que, l'Écriture nous le dit aussi, qu'il se trouve que David était beau. Mais lorsqu'il a été choisi, le prophète Samuel a bien dit que ce n'était pas à l'apparence que Dieu portait attention, mais au cœur. Et quand nous nous considérons nous-mêmes, le matin devant la glace, franchement, on n'est pas très présentable, disons-nous régulièrement, avant de commencer notre journée, que nous sommes cette créature si merveilleuse. Parce que nous sommes, dans notre corps tel que Dieu nous l'a donné, une personne en évolution, en train d'être façonnée par Christ pour devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ. Et c'est ça qui fait notre identité et qui construit notre identité d'homme et de femme de Dieu et qui nous conduit dans la satisfaction devant notre Dieu, dans la paix et dans l'harmonie avec notre corps, souvent si méprisable. Le corps, l'Écriture nous le présente comme un instrument en gestion temporaire, comme tout ce que Dieu nous donne. Le temps que Dieu nous donne, l'argent que Dieu nous donne, les forces que Dieu nous donne. Eh bien, le corps, c'est aussi quelque chose que Dieu nous confie pour un temps. Et 1 Corinthiens, au chapitre, on reviendra sur ce verset 6, les versets 9 à 10, qui traitent de l'inconduite morale en particulier, nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des propriétaires de notre corps. Au verset 20, la fin du verset 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » la fin du verset 19, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes que locataires de ce corps. Ce corps, le Seigneur, un jour, le fera retourner à la poussière. C'est le sort qui lui est dévolu depuis l'irruption du péché dans notre histoire humaine. Mais pour l'instant, un peu comme dans la parabole des talents que Jésus a raconté, il nous est donné, et maintenant fais-en ce que tu veux que j'en fasse. Ce que je veux que tu en fasses, pardon, remettre dans l'ordre. Dieu nous dit, voilà, je t'en fais don, utilise-le comme un instrument à ma gloire. Et nous avons à bien le gérer, ce corps, bien le gérer dans son usage, nous en reparlerons abondamment dans la suite de la prédication, bien le gérer aussi dans la préservation. La santé de notre corps est aussi un don de Dieu. Et on peut s'interroger sur les multiples conduites à problèmes dans ce domaine-là, les addictions, le tabac, l'alcool, l'abus de médicaments, etc. Mais aussi les prises de risques inconsidérées lorsque nous sommes au volant, les prises de risques inconsidérées dans les sports extrêmes, ce besoin d'adrénaline qui est qui fait partie tellement de l'ère de notre temps, ce besoin de sensation qui nous fait nous mettre en danger inutilement, alors que ce corps, Dieu nous l'a donné pour autre chose, pour le glorifier. Et nous, qu'est-ce que nous en faisons? Les conduites qui mettent en danger la santé, simplement, dans le domaine alimentaire. L'Écriture nous dit que c'est un don de Dieu, que ce corps, il nous a été remis, revêtu d'une dignité particulière. Le psaume, au chapitre 8, verset 6, dit que nous avons été de peu créés inférieurs à Dieu, de peu. Et ce corps n'a pas à être méprisé, dévalorisé. Prends l'exemple de la pub, l'affichage inconsidéré du corps féminin en particulier, ou dans soi-disant un soi-disant art. Cela nous amène à réfléchir aussi à cette notion de dignité de ce corps, parce qu'il est un don de Dieu. Sur des pratiques touchant à la fin de vie en particulier, on rejoint ensuite là aussi de multiples questions éthiques. La question de l'euthanasie, tellement débattue en ce moment, la question de la crémation, ce sont tous des sujets que nous aborderons vendredi, si vous le voulez bien, si cela vous intéresse. Ce corps, donc Dieu nous a demandé de bien en gérer l'usage, de bien en gérer la préservation et de bien en gérer aussi les inquiétudes qu'il est susceptible de soulever. Dans Matthieu, au chapitre 6, versets 25 et 27, Jésus disait, mais pourquoi vos inquiétudes ? Je vais simplement aller directement au verset 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Des besoins évident et légitime. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire qui les mettent au premier plan de leur quête. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et Jésus, c'est les paroles de Jésus, termine en disant « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses viendront, elles sont légitimes. Ces besoins du corps. Encore faut-il, et là il y aurait toute une prédication à apporter, distinguer entre les besoins et les désirs que nous avons pour notre corps. Jésus parle ici des besoins. Ces besoins, Dieu les connaît. Dieu ne nous laissera pas sans solution face à ces besoins. Mais il souhaite que, dans le domaine de nos inquiétudes, elles passent au second plan. Les inquiétudes pour nos santé, qui font consulter des multiples fois, tous les spécialistes, etc. Cette inquiétude permanente, cette préoccupation permanente autour de ce que nous mangeons, etc., tout cela qui occupe nos vies, qui accapare nos vies, qui nous met sous une forme de dictature, Dieu nous dit, non, il y a autre chose qui doit compter plus dans vos vies. Parce qu'il y a, et c'est Jésus qui le soulève, il y a une question de priorité à rétablir. Notre corps, nous ne vivons pas sous sa dictature. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et dans Matthieu, toujours au chapitre 10, le verset 28, Jésus dit, Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Il y a une prédominance de votre âme, parce qu'elle, elle est éternelle par rapport à votre corps. Votre corps, il va périr, il va retourner à la poussière. Et dans Matthieu, au chapitre 18, le verset 8, il y a ces paroles très connues de Jésus, qui dit que si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les. Il vaut mieux entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Notre perspective éternelle dépasse de loin notre perspective matérielle et corporelle du moment. Bien entendu, c'est une image que Jésus a pris ici. N'allez pas saisir le couteau en rentrant chez vous. Mais la vie, notre vie de sainteté, notre relation maintenue avec notre Père céleste prévaut largement sur les préoccupations de notre corps. On peut se poser là encore de multiples questions pratiques, on les abordera éventuellement vendredi. Le sport, par exemple. Timothée, jeune homme, dans une culture où le sport était érigé un peu en culte, en religion, la culture hellénique, pose vraisemblablement la question à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui dit « Le sport est utile à peu de choses. » Il ne dit pas qu'il est inutile, mais à peu de choses. Rétablir en chaque chose sa juste place et le juste équilibre. Question d'autorité. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 4, là encore, l'apôtre Paul dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On abordera cet aspect après. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Nous ne sommes pas sous la dictature de notre corps, de ses désirs, de ses besoins, quels qu'ils soient. Dans Romains au chapitre 6, verset 13, dans Romains chapitre 6, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous avons à décider à quoi nous dédions nos membres, c'est-à-dire notre corps. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 27, je reviendrai sur ce verset qui est très fort, l'apôtre dit « Je traite durement mon corps, mais il dit surtout « Je le tiens assujetti ». C'est-à-dire que dans notre équilibre tel que Dieu nous a voulu, nous a créé, corps et âme-esprit, il veut que ceux qui dominent, ce soit l'âme et l'esprit, et en particulier la communion avec Dieu, la recherche de la volonté de Dieu, sur l'autorité que le corps peut avoir sur nous. Et l'autorité peut en avoir. Le corps, pardon, peut en avoir de l'autorité sur nous, dans la manifestation de ses besoins. Et donc des excuses telles que « je n'ai pas pu m'empêcher, mon corps avait des besoins incontrôlables » ou « j'ai perdu le contrôle », ce sont des excuses, des expressions qui ne peuvent pas avoir place dans la bouche de quelqu'un qui veut vivre selon l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons le contrôle. Dieu nous en a donné la possibilité. Reste à savoir la place que nous accordons et la priorité que nous accordons dans nos propres vies, dans notre propre identité de personne humaine. Revenons un petit peu en arrière. J'ai mentionné tout à l'heure, avant la scène, Adam qui a été créé corps, âme et esprit, destiné à une vie harmonieuse de cet ensemble constituant son identité. La désobéissance de la chute a trouvé son expression concrète dans l'histoire d'Adam au niveau de son corps. Un œil a vu, une main a saisi, l'a porté à la bouche, l'a consommé et l'a donné à son partenaire, son conjoint, et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous savons était que symbolique, de l'autorité prise sur la détermination du bien et du mal, a plu gustativement. Et il s'en est suivi historiquement une série de conséquences qui touchent particulièrement à cette harmonie, à cet équilibre du corps. Il y a eu un divorce, si vous voulez, entre les besoins du corps et les désirs de l'âme et de l'esprit. Des conséquences immédiates, le sentiment inconnu jusqu'à présent dans l'harmonie du paradis terrestre, de la vulnérabilité devant Dieu, la nudité ressentie comme quelque chose d'insupportable, à laquelle Dieu va apporter une solution. L'homme n'est plus dans une relation normale, spirituelle avec son Créateur. Il éprouve la honte et plus tard une avalanche de conséquences que je n'énumère pas, que Genèse au chapitre 3 décrit sur la vie de l'homme, la vie de la femme, etc., éprouvée dans son corps. Et ce divorce, cette perte d'harmonie, cette perte de cohésion dans notre personne humaine telle que Dieu l'avait voulu et l'avait créée au départ, eh bien Dieu veut la restaurer maintenant en Jésus-Christ. C'est tout le projet de Dieu. Il y a un projet de Dieu pour notre salut, pour notre relation avec lui, mais il y a un projet de Dieu aussi pour notre relation avec la nature, parce que notre relation avec la nature a été dénaturée par le péché. Il y a un projet de Dieu pour notre relation avec nos vis-à-vis humains, parce que ces relations ont été détériorées par l'irruption du péché dans le monde. Et il y a une réconciliation aussi dans notre vie intérieure que Dieu veut opérer. Retrouver cette harmonie qui nous permet de vivre avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Et ce que nous voyons, c'est que l'homme, dans son abandon de Dieu, son refus de Dieu, a totalement occulté et amputé sa personnalité, en particulier de l'aspect spirituel, de sa vie spirituelle, de sa relation avec Dieu. Et ceci, Jésus-Christ veut le restaurer dans nos vies. Ce n'est pas le corps qui impose, mais c'est l'esprit qui est soumis à l'esprit de Dieu, dont un des fruits dans l'Écriture nous est rappelé, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est je décide et je ne suis pas victime innocente de ce que mon corps fait et accomplit. Deuxième aspect de la question que je développerai très peu. Un don reçu de Dieu avec tout ce que cela implique, nous avons décliné quelques-uns de ces aspects, mais un sacrifice à offrir. Un sacrifice à offrir à Dieu. Dieu nous dit que nos vies, et nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons chanté ce numéro 224 qu'a indiqué Florence, qui est un très très beau chant que j'aime beaucoup, que je voulais d'ailleurs annoncer pour la fin de cette prédication, où nous disons à Dieu « Je te donne tout ». Mais si vous regardez les paroles, vous apercevez que « Je te donne mon cœur, je te donne ce que j'ai de meilleur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, mais il n'est pas mentionné, je te donne mon corps ». Et l'Écriture nous dit que, bien entendu, ça fait partie, et l'auteur de ce très beau chant n'est pas passé à côté du problème, ça fait partie de notre vie. Mais Dieu nous dit que notre corps, il est destiné à être offert en sacrifice à Dieu. Il nous l'a donné pour que nous lui rendions. Le rendions dans le service pour lui. Notre vie au travers de notre corps, y compris notre travail, tout cela est pour la gloire de Dieu. Notre vie dans notre famille, notre vie... la vie de notre corps, notre hygiène corporelle, tout cela est pour la gloire de Dieu. Parce que par notre corps, nous célébrons aussi la gloire de Dieu. Tout en nous est destiné à être offert à Dieu. Et l'apôtre Paul allait très loin là-dedans, dans cette logique qu'il avait parfaitement bien comprise. Dans Philippiens au chapitre 1, il dit « Ma vie comme ma mort, ça m'est égal. Tout est à Dieu ». Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, le verset que j'ai commencé à citer tout à l'heure, il va très loin aussi, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Il concevait le sacrifice de son corps à Dieu comme exigeant, comme important, particulièrement important. Alors bien sûr, il y a eu une dérive de cette notion de traiter durement son corps que l'apôtre Paul lui-même a combattu après, ça s'appelle l'ascétisme. C'est encore une autre des hérésies, des gros mots que je mentionne ce matin. L'ascétisme, c'est de croire que nous pouvons plaire à Dieu par la rigidité de nos conduites, de nos privations, alors que Dieu nous dit « Mais non, tout est grâce, tu n'as rien à gagner de ma part, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le salut, la réconciliation, le pardon, je t'ai donné un corps, je t'ai donné une vie, je t'ai donné du temps, je t'ai donné des forces. Tout cela vient de moi, tout est à toi. Et simplement, ce que l'apôtre Paul avait réalisé, c'est que tout cela, j'ai une exigence de le vivre dans l'obéissance au Seigneur, une exigence particulière. Sacrifice à offrir aux autres. Dans notre service, on l'a mentionné à propos de Jésus-Christ, ce que ses mains ont accompli, ce que ses yeux ont fait, ce vers quoi ses pieds l'ont porté, vers les autres, pour le soutien, pour le salut, pour la guérison, pour le bienfait, pour la bénédiction des autres. Tout cela a occupé la vie de Christ dans son corps. Le deuxième grand enseignement que l'on retrouve dans l'Écriture concernant le corps, nous avons vu, le corps, c'est un don que nous avons reçu, c'est un sacrifice que nous avons à offrir à Dieu. Nous le trouvons ici dans ce texte. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le corps, un terrain de sanctification dans lequel le Seigneur veut travailler pour que nous soyons de plus en plus saints, tels que lui-même est saint. La loi de Moïse a élaboré une pédagogie de ce point de vue, basé sur la notion de pur et d'impur. Et il y avait dans la loi de Moïse un certain nombre de recommandations. Ceci est pur, ceci est impur. L'objectif était essentiellement d'apprendre au peuple d'Israël que Dieu est un Dieu pur et qu'il ne tolère pas l'impur. Et que c'était une pédagogie par l'image, par l'expérience auquel Dieu invitait son peuple. Le Nouveau Testament ouvre une nouvelle époque, une nouvelle alliance, va ajuster cet enseignement. La première chose que nous notons dans le Nouveau Testament, c'est que tous les interdits alimentaires, en particulier, qui avaient valeur uniquement pédagogique pour le peuple d'Israël, d'abord et avant tout, ces interdits alimentaires vont être levés. Tu peux manger de tout, pourvu que tu glorifies Dieu, pourvu que ça ne scandalise pas. Rappelez-vous la prédication de Stéphane il n'y a pas très longtemps. Tu peux consommer de tout, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Le Nouveau Testament va élargir les sources d'impureté au cœur, alors que dans la loi, tout se situait au niveau de l'acte. Jésus va dire, non, la racine du problème est dans l'âme, dans la décision, dans la conscience que tu en as, dans ta vie spirituelle, ton désir d'obéir ou non à Dieu. C'est-à-dire que, voilà, si tu convoites une femme, par exemple, tu as déjà commis l'adultère, en somme. C'est-à-dire que de la pensée, de l'intention à l'acte, si tu as de la haine pour ton frère, tu es déjà un meurtrier. Le Nouveau Testament va élargir cette notion et va la faire remonter à cette cohésion de notre personne humaine tout entière. Et le Nouveau Testament va restreindre ses recommandations à trois domaines, principalement. Le domaine des excès de bouche, je n'en parlerai absolument pas. L'ivrognerie, les excès de table, je n'en parlerai pas ce matin. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la décence. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, c'est des sujets sur lesquels nous ne prêchons pas souvent, mais toute cette réflexion sur le corps, la façon dont nous le gérons, le conduisons, le présentons, en donnant l'apparence, nous conduit à aborder ces questions. L'apôtre Pierre dit, et il s'adresse particulièrement aux femmes, il y a une raison pour cela, « Ayez non cette apparure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » On retrouve ici cette notion de priorité. La priorité, c'est le cœur, c'est l'intérieur, c'est pas l'apparence qu'on en donne. Mais cette apparence, elle avait vocation à attirer le regard, à aguicher, à séduire. Bien entendu, la parole de Dieu ne condamne pas tous ceux et celles, je n'ai pas compté ce matin, qui ont peut-être des tresses, enfin surtout celles, je pense, qui ont des tresses, comme il est dit ici. Mais c'est le comportement qui vise à faire de notre corps un appât de séduction, qui attire le regard. Et donc, dans plusieurs textes, je ne vais pas les citer tous, je suis obligé d'accélérer un peu, l'apôtre Paul dit d'avoir cet extérieur qui convient à la sainteté. Il y a la notion toujours de la pureté, de la sainteté qui apparaît ici. Et vous savez que c'est une aspiration qui est commune à tous les hommes. l'aspiration à la pureté, à la sainteté, l'aspiration à la cohérence intérieure, extérieure, etc. L'apôtre Paul insiste aussi sur une manière décente de se vêtir. Il peut y avoir une attitude légaliste qui consiste à dire « voilà, les jupes doivent avoir telle longueur, le maquillage telle intensité, telle couleur, les ongles telle longueur, etc. » C'est le légalisme. Et là encore, c'est encore une de ces autres hérésies qui ont pu habiter le christianisme depuis ses débuts, mais encore maintenant. L'Écriture ne va pas sur ce terrain-là. Elle pose des principes qui sont des principes simplement de la décence, de la pudeur et de l'attention portée au regard de l'autre. C'est-à-dire, et là les écrivains s'adressent surtout aux femmes, parce qu'on sait que nous sommes très différents de ce point de vue, hommes et femmes, mais les principes s'appliquent également à l'homme, les principes de décence, etc. C'est-à-dire que nous devons avoir une attention que dans la présentation que nous faisons du corps, nous ne soulevions pas des désirs, des fantasmes dont nous serions nous-mêmes responsables. Nous ne sommes pas toujours responsables de ce que les autres peuvent penser, imaginer, fantasmer, etc. Mais dans la part dont nous pouvons en être responsables, l'Écriture nous dit d'y veiller, tout simplement, sur un principe général et sans être légaliste. Dieu s'adresse aux femmes de ce point de vue-là. Dans l'Écriture, quand on relit le récit de la Genèse, on s'aperçoit que la pudeur a été donnée après la chute, après l'irruption du péché et la rupture d'harmonie dans la création, la pudeur a été donnée comme un garde-fou au déferlement du mal. La pudeur nous préserve de notre mise en danger et de la mise en danger aussi de la conscience d'autrui. C'est dans ce sens que Jésus disait, si quelqu'un regarde, mais parfois on peut être amené à regarder parce qu'on a trop affiché en face. Rappelez-vous l'épisode de David et de Bathsheba, et l'Écriture est pleine d'exemples. Bathsheba qui prend son bain toute nue au grand jour sur son balcon, et qui peut-être après s'est étonné de ce que David vienne frapper à sa porte, lui dise « Tu viens dans mon lit ?» Et qu'ensuite il tue son mari, etc. Vous connaissez l'épisode dans l'Ancien Testament. Mais il y a là quelque chose à considérer dans la valeur que cela représente aux yeux de Dieu. La pudeur, la décence. Parce que nous voulons nous préserver nous-mêmes et nous voulons préserver autrui également. Ça amène plein de considérations, de nudisme, naturisme, etc. Mais sans aller aussi loin, ça amène un certain nombre de considérations aussi sur l'impudeur de certaines attitudes, de certaines promiscuités que l'on peut retrouver parfois dans les simples relations humaines. Je pensais, entre autres choses, peut-être à certaines formes de danse qui, affichant une sensualité, une lascivité, etc., sont parfois même des mimes, quasiment, de l'acte sexuel. Ça peut nous amener à nous poser des questions. Un chrétien a-t-il sa place dans ce type de promiscuité ou d'attitude ? Ne fait-il pas preuve d'une impudeur que la société cautionne ? Dans un mariage, dans une cérémonie ou autre. On ouvrira quelques considérations sur ce sujet-là vendredi. C'est très important. Et entre autres choses, quelle est la place du corps dans la louange à Dieu ? On l'ouvrira vendredi, si vous voulez bien venir. Dernier domaine que l'Écriture aborde, j'en oublie mon PowerPoint en voulant aller un peu plus vite, le domaine de la sexualité. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, l'apôtre Paul dit des choses très importantes. Dans cette église de Corinthe, ville où la prostitution régnait comme un mode de vie normal, on avait sa femme et on avait aussi les prostituées pour le plaisir. L'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pardon, que je retrouve rapidement le texte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. J'ai déjà lu ça tout à l'heure. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Bien sûr que non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ils réalisent, dans quelque chose qui est une aberration, une union, que Dieu a prévu comme belle la sexualité. Et je veux réaffirmer ici quatre enseignements bibliques de façon très schématique. La différenciation sexuelle, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est une œuvre créatrice de sa part, avec tout ce qui en découle, entre autres choses, l'attirance pour autrui de l'autre sexe, le désir, etc. Deuxième élément, c'est que les relations sexuelles sont pour la procréation, certes, mais aussi pour le bonheur, pour la jouissance de l'homme et de la femme. Lisez le livre des Proverbes, lisez le Cantique des Cantiques, par exemple. Le couple établit dans la durée la fidélité, le respect, l'amour et le caractère public, bien connu de tous, ce qui correspond à la norme biblique du mariage, et le cadre est le seul pour l'expression de la sexualité. Je réaffirme ici des choses évidentes pour beaucoup d'entre nous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser à la fin. Et parce que, la quatrième affirmation, parce que c'est du domaine de l'intime profond, Satan a fait de la sexualité un champ d'appropriation et d'exploitation pour l'asservissement de l'homme et de la femme, jamais égalé dans les autres domaines de la personne humaine. Sur la base de ces quatre affirmations, l'Écriture est très claire. Elle est aussi très explicite. Et des sujets dont nous ne parlons pas habituellement dans les églises, peut-être par pudeur, par gêne, etc., l'Écriture, elle, ne cache pas des choses très claires. Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 14, l'auteur de l'Épître dit que le mariage soit honoré de tous en tant qu'institution et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. L'auteur ici aborde deux questions. L'adultère, qui est un déshonneur du mariage, qui est un péché aux yeux de Dieu. Je pense que là-dessus, nous n'avons pas d'ambiguïté. Et le deuxième sujet, traduit par le lit conjugal exempt de toute souillure, le grec est beaucoup plus explicite, excusez-moi. Le mot grec utilisé est coitos, c'est-à-dire que l'acte sexuel en lui-même a vocation, si nous voulons vivre dans la volonté de Dieu et dans la sainteté de Dieu, doit être lui aussi exempt de toute souillure. Ne demandez pas plus de détails, mais nous avons tous à réfléchir dans nos consciences de ce que, dans ce domaine de l'intime le plus profond, nous pouvons vivre de la sainteté de Dieu. Et que le consentement mutuel n'est pas forcément un critère de sainteté. Que Dieu a tout fait pour un but, il est dit dans le livre des Proverbes. Que notre corps n'est pas soumis, comme nous le voyons et l'entendons actuellement, à la dictature du plaisir, où il faut à tout prix la recherche du plus de plaisir que plus de plaisir encore, dans une quête infinie et jamais aboutie, mais que c'est un lieu de relation belle, intime, lorsqu'elle est vécue dans le cadre de ce que Dieu a voulu, ce cadre sécurisant qui est celui du mariage. On peut se poser de multiples questions sur l'éducation de nos jeunes, essentiellement faite parce que ce que les autres en racontent et parce qu'Internet en raconte et en montre, qui importent, qui sont susceptibles d'importer dans le sein de l'intimité du mariage des pratiques qui déshonorent et leurs conjoints, et eux-mêmes, et Dieu. Nous avons, dans la préparation au mariage, dans la vocation de l'Église, à aborder de ces questions et de ne pas laisser champ libre à Satan d'enseigner, démontrer, montrer, encourager à des choses qui déshonorent Dieu et souillent les consciences d'une façon durable. Ce que je vous le dis ici, je vous le dis aussi sur la base de confessions pastorales, de personnes qui, une fois mariées, se sont retrouvées dès la première nuit de noces face à des pratiques imposées, exigées, etc., qui ressortaient directement de la pornographie et qui déshonorent Dieu. Et je parle ici de chrétiens, soi-disant. Que le Seigneur nous aide à voir là aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que dans ce domaine dont l'Écriture ne se cache pas, parle avec franchise, nous avons à vivre la sainteté et la pureté. Parce qu'en conclusion, ce que Dieu veut, c'est que soit que nous mangions, soit que nous buvions, et nous pourrions rallonger la liste, de quelque usage que nous faisons de notre corps, nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Parce que dans ce juste équilibre trouvé entre notre esprit en communion avec Dieu, je parle là en tant que chrétien, notre âme et notre corps, nous glorifions Dieu. Dans l'acceptation du fait que ce corps nous a été donné par Dieu et que nous voulons lui rendre dans son usage pour son service et pour le service des autres, qui ne nous a été donné que pour cela, nous glorifions Dieu. Que dans la recherche de la sainteté de nos vies corporelles, je ne parle pas là de l'âme et de l'esprit, et nous avons toujours tendance à spiritualiser les choses, à nous dire, comme les gnostiques, que c'est là que ça compte, et que le corps, ensuite, peu importe. Non, mais que dans notre sainteté globale de notre personne, nous glorifions Dieu, encore une fois. Et que là, dans un usage fait selon la volonté de Dieu, nous réalisons que la vie de Jésus est aussi manifeste dans notre corps. C'est l'objectif de la parole de Dieu, ce vers quoi Dieu veut nous conduire. Que notre corps exprime une vie semblable à celle que Jésus-Christ lui-même a exprimée dans sa propre vie sainte, droite et juste devant Dieu, et pleinement satisfaisante de la part de Dieu. C'est le secret de la cohérence, de la pureté, de l'harmonie et de l'épanouissement après lequel tous les hommes courent. Que Dieu nous donne de le considérer comme tel et de le vivre comme tel. Amen.